Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine-Nar-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre dans Hexagone, sur les routes de l'histoire de France. Laurent Deutsch propose une histoire de France organisée non autour d'une chronologie scolaire classique, mais autour des voies de circulation qui ont relié, disputé et progressivement dessiné le territoire. Cet essai de vulgarisation historique suit 26 itinéraires du 6e siècle avant notre ère jusqu'à l'époque contemporaine. Routes antiques, fleuves, chemins médiévaux, voies ferrées et grands axes modernes deviennent les fils conducteurs d'un récit où se croisent échanges commerciaux, migrations, conquêtes, institutions et épisodes militaires. L'ambition du livre est double: rendre les traces du passé perceptibles dans les paysages actuels et montrer que la France ne s'est pas constituée d'un seul mouvement ni à partir d'un centre immuable. Deutsch privilégie une écriture vive, riche en anecdotes et en descriptions de lieux. Cette accessibilité fait la force de l'ouvrage. Même si son goût pour le récit national et la dramatisation invite à le lire comme une synthèse de découvertes plutôt que comme un travail universitaire exhaustif. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les routes comme méthode pour lire la formation du territoire français. Le principe directeur d'Hexagone consiste à faire des infrastructures et des itinéraires historiques un instrument d'interprétation. Au lieu de présenter l'histoire française comme une succession isolée de règnes, de batailles et de régimes, le livre observe les liens matériels qui ont permis aux populations, aux marchandises, aux armées et aux idées de circuler. Une voie romaine, un passage fluvial ou un chemin de pèlerinage ne sont donc pas de simples décors, ils expliquent pourquoi certaines villes prospèrent, pourquoi des zones deviennent stratégiques et comment des pouvoirs cherchent à contrôler l'espace. Cette approche met concrètement en relation géographie et histoire. Les reliefs, les fleuves, les façades maritimes et les corridors terrestres imposent des contraintes, mais offre aussi des possibilités d'échange et de domination. La forme de l'hexagone apparaît ainsi comme le résultat tardif de processus politiques et économiques, non comme une évidence naturelle. Le découpage en itinéraires permet également de relier des régions souvent étudiées séparément. Le lecteur comprend que Marseille, la vallée du Rhône, la Seine, les frontières de l'Est ou les rivages du Nord participent à des réseaux de circulation distincts puis de plus en plus intégrés. La méthode privilégie l'expérience des lieux, avec le risque de simplifier certaines causalités, mais elle rend visible la dimension spatiale de l'histoire nationale. Deuxièmement, de la Méditerranée antique au réseau contemporain, une chronologie incarnée, l'ouvrage couvre une période très longue. Depuis les premiers itinéraires évoqués autour de la fondation de Marseille au VIe siècle, avant notre ère, jusqu'aux liaisons contemporaines associées au tunnel sous la Manche. Cette amplitude permet à Laurent Deutsch de souligner les changements de moyens de transport. Sans rompre le fil principal, chaque époque réorganise l'espace français à partir de réseaux hérités, transformés ou concurrencés. Les circulations celtiques et méditerranéennes, les voies de la Gaule romaine, les routes médiévales, les fleuves, puis le rail et les axes modernes ne jouent pas le même rôle. Tous participent toutefois à la construction de relations durables entre territoires. Le livre insiste notamment sur les ressources et les trafics, tels que le sel, le fer, l'ambre ou l'étain, qui donnent une valeur stratégique aux chemins et aux ports. Ce choix évite de réduire l'histoire à la seule action des dirigeants, l'approvisionnement, le commerce et la mobilité quotidienne comptent aussi. La chronologie reste néanmoins celle d'un récit de large synthèse, où les grandes étapes politiques servent de repère. Son intérêt réside dans l'articulation entre continuité matérielle et rupture historique. Une route peut survivre à un régime, mais son usage, ses bénéficiaires et sa signification changent avec les sociétés qui l'empruntent. Troisièmement, des traces locales pour relier monuments, archéologie et histoire nationale, Hexagone s'appuie sur la matérialité des lieux pour rendre le passé plus intelligible. Forteresses, remparts, ports, cathédrales, grottes, ponts et anciens tracés routiers sont mobilisés comme des traces à partir desquelles le récit historique prend forme. Des sites tels qu'Aigues-Mortes, Carcassonne, Reims, Strasbourg, Mont-Saint-Michel ou Marseille ne sont pas seulement présentés comme des destinations patrimoniales, ils permettent d'aborder la monarchie, les conflits religieux, les frontières, les échanges maritimes ou les ambitions politiques. Cette attention au terrain donne au livre une valeur de médiation entre savoir historique et observation directe. Le lecteur peut comprendre qu'un paysage actuel conserve des indices de choix très anciens: emplacement d'une ville, direction d'un axe, fonction défensive d'une hauteur ou rôle commercial d'un fleuve. Les références aux découvertes archéologiques et aux vestiges nourrissent ce sentiment de continuité, tout en rappelant que la connaissance du passé peut être précisée par de nouvelles données. L'anecdote occupe une place importante dans ce dispositif. Elle rend les épisodes mémorables mais ne remplace pas une démonstration critique complète sur les sources. C'est là une limite utile à garder en tête. L'ouvrage initie à la lecture historique des lieux, plutôt qu'il ne fournit un inventaire scientifique de leur documentation. Il encourage surtout à considérer le patrimoine comme un ensemble de preuves, d'interprétations et de mémoires superposées. Quatrièmement, une histoire peuplée de souverains. De combattants et d'acteurs ordinaires, le récit de Laurent Deutsch associe les figures célèbres de l'histoire de France à des présences plus anonymes voyageurs, commerçants, paysans, marins, bâtisseurs ou habitants des villes traversées. Ce mélange répond directement à sa logique des routes. Les grands pouvoirs décident de conquêtes, d'impôts, de fortifications ou d'aménagements. Mais les voies n'existent et ne prennent sens que parce qu'elles sont quotidiennement parcourues, entretenues, habitées et utilisées pour travailler. L'exemple fréquemment rapporté des platanes plantées sous Henri II le long de routes du domaine royal illustre cette articulation. L'aménagement touche à la fois à la délimitation administrative, à l'autorité de l'État et aux besoins militaires en bois. Le livre cherche ainsi à faire sentir comment une décision politique se traduit dans un paysage et dans des pratiques concrètes. Toutefois, la place accordée aux personnages et aux épisodes marquants révèle une préférence pour une histoire incarnée et narrative. Cette orientation facilite l'entrée dans des périodes éloignées, mais elle peut donner davantage de visibilité aux actions royales, militaires ou symboliques, qu'aux mécanismes sociaux de longue durée. Le lecteur gagne donc à distinguer deux apports, une restitution efficace de la diversité des vies autour des itinéraires et un récit national qui sélectionne ces exemples pour maintenir l'élan de la lecture. Cette tension constitue une caractéristique du livre, non un défaut dissimulé. En dernier lieu, une vulgarisation narrative dont le cadre interprétatif mérite d'être discuté. La principale singularité d'Hexagone est de rendre une matière historique étendue accessible par le mouvement, les lieux et les récits brefs. Le style oral et enthousiaste de Laurent Deutsch, ainsi que l'abondance d'anecdotes, vise un public plus large que celui des ouvrages académiques. Cette clarté répond à une fonction pédagogique réelle, elle aide à mémoriser des repères, à situer les événements et à comprendre que l'histoire s'inscrit dans un territoire observable. En revanche, ce type de vulgarisation implique des choix de mise en récit. En privilégiant la continuité d'une France en train de se former, l'ouvrage peut renforcer l'impression d'une trajectoire nationale cohérente, alors que les frontières, les appartenances et les pouvoirs ont longtemps été instables, concurrents et pluriels. Les légendes, lorsqu'elles accompagnent les faits, participent à l'atmosphère du livre, mais demandent aussi une lecture vigilante. De même, l'évocation de travaux archéologiques récents ne dispense pas de consulter des études spécialisées pour évaluer débats, incertitudes et interprétations alternatives. L'intérêt du livre n'est donc pas de clore une discussion historiographique. Il réside plutôt dans sa capacité à susciter des questions: par quel réseau un territoire s'organise-t-il? Qui contrôle les passages? Comment un lieu devient-il un symbole? Lu avec cet esprit critique, Hexagone peut constituer une porte d'entrée stimulante vers des monographies régionales, des sources patrimoniales et des travaux d'historiens. En conclusion, Hexagone, sur les routes de l'histoire de France, s'adresse d'abord aux lecteurs qui souhaitent retrouver des repères historiques sans entrer immédiatement dans la technicité d'une synthèse universitaire. Il conviendra particulièrement aux curieux de patrimoine, aux voyageurs désireux de donner une profondeur historique aux paysages qu'ils traversent, ainsi qu'aux lecteurs ayant apprécié l'approche de Laurent Deutsch dans Métronome. Son bénéfice pratique est de fournir une grille de lecture simple: regarder une route, un fleuve, une ville fortifiée ou un port comme le produit de circulation et de rapports de pouvoir anciens. Son bénéfice intellectuel est de rappeler que la construction de la France dépend autant des réseaux d'échanges et des contraintes géographiques que des décisions des souverains ou des grandes batailles. Par rapport aux histoires générales de France, souvent organisées par périodes, institutions ou dynasties, le livre se distingue par son fil spatial. Les 26 itinéraires donnent une unité concrète à une chronologie très vaste et favorisent une lecture active, proche du voyage. Cette force narrative explique son accessibilité, mais elle définit aussi sa limite, la fluidité du récit. Et la place des anecdotes ne remplace pas l'examen approfondi des controverses historiques ni la pluralité complète des expériences sociales. Il est donc préférable de l'aborder comme une excellente introduction de vulgarisation à compléter par des ouvrages spécialisés. Pour qui accepte ce cadre, Hexagone offre une manière originale, vivante et géographiquement attentive de relier l'histoire nationale au lieu réel. Si vous souhaitez soutenir Laurent Deutsch, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.